sous la coupole. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Pour la 7e fois, les nombreux prix des fondations abritées à l'Institut de France et les 7 grands prix ont été remis lors d'une séance solennelle sous la coupole le 2e mercredi de juin, c'est-à-dire le 8 juin 2011. La séance était présidée par Jean Béchler, président de l'Institut pour cette année et également président pour cette année de l'Académie des sciences morales et politiques. À ses côtés se tenaient à la tribune Mme Hélène Carrère-Doncos, secrétaire perpétuelle de l'Académie française, et M. Gabriel De Breuil, chancelier de l'Institut de France. Vous allez entendre maintenant le président Béchler ouvrir cette manifestation, puis le chancelier De Breuil. Cette manifestation s'inscrit dans la lignée des grands prix internationaux dans les domaines scientifiques, culturels et humanitaires, entrés avec les académiciens et leurs invités sous la coupole.
La séance est ouverte. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs les ambassadeurs, madame et messieurs les présidents, mesdames et messieurs les fondateurs, monsieur le chancelier, mesdames et messieurs les secrétaires perpétuels, chers confrères, mesdames, messieurs, pour la 7e année consécutive, nous nous réunissons aujourd'hui sous cette coupole pour remettre les grands prix des fondations de l'Institut de France. 7 ans. Chiffre parfait d'un cycle abouti, mais non pas achevé, dont nous espérons le renouvellement. 7, chiffre symbolique dans les domaines de recherche et d'action qui nous réunissent depuis toutes ces années. Cette année qui, cristallisée au cours d'une rencontre solennelle annuelle, sont pour nous tous l'occasion de mesurer pleinement le travail exceptionnel réalisé par les fondateurs au sein de notre maison, l'accompagnement indéfectible apporté par les membres de l'Institut participant au jury, comité de sélection, mais aussi conseil d'administration, apportant leur savoir-faire et leur expertise au service de la mission première des fondations, distribuer des bourses, des subventions, des grands prix, faisant ressortir pour cela les dossiers les meilleurs, les travaux les plus méritants, les découvertes les plus innovantes. Pour toutes ces raisons, je suis heureux et fier de présider cette séance. Pour présenter les lauréats de nos grands prix, interviendront au cours de cette séance M. Philippe Sansonetti, M. Jean-François Bach, M. Xavier Darcos, M. Alain Carpentier, M. Henri Corne, Mme Catherine Bréchignac et M. Michel Zing. Avant de leur laisser la parole et de rappeler à travers quelques exemples les projets soutenus cette année par les fondations de l'Institut, je veux sans plus tarder laisser la parole au chancelier, M. Gabriel De Breuil, pour son discours sur « Mécénat sans frontières ».
Merci, M. le Président. En quelques lustres, la mondialisation s'est imposée comme cadre général des échanges, des relations sociales, des modes de vie. La philanthropie ne pouvait pas échapper à son emprise. Il n'est pas trop tôt pour tenter de dégager quelques-unes des conséquences d'un mécénat sans frontières. La philanthropie est par définition sans frontières. Fille de lumière, elle est universaliste par nature, elle anime les archéologues de toutes les civilisations, les explorateurs de toutes les contrées, les amis de tous les artistes, les imprimeurs de toutes les littératures. Devenu village, le monde contemporain nous montre que la planète entière est à sauver. Le mécénat d'un simple mouvement de conscience est devenu une évidence dans tous les domaines d'intervention et une nécessité personnelle et collective. Cette globalisation presque instantanée des flux et des connexions allait-elle affaiblir la force de la philanthropie ? Il n'en est rien. le souci de la transmission et de la solidarité demeure intact. Il n'est pas de civilisation de l'oubli ni de l'indifférence. La mondialisation préside donc à toute démarche philanthropique. L'identification des besoins, la recherche et la sélection des candidats ne sauraient plus se limiter à une prospection locale. De même que les phénomènes météorologiques, les activités économiques et les travaux de l'esprit relèvent désormais d'une approche globale, de même, chaque mécène devient un navigateur infatigable ou un explorateur parcourant de multiples champs. Si, dans sa motivation, le mécène répond à une vocation qui lui est propre, il demeure autonome, c'est-à-dire libre dans l'action. Les méthodes du mécénat, elles, s'internationalisent selon un modèle de nature anglo-saxonne fondé sur des principes de rationalité des choix, de bonne gouvernance et de recherche d'efficacité. Sans frontières, le mécénat conserve son élan naturel qui est celui du don. La mondialisation y ajoute toutes les ressources de l'Internet qui abat les frontières et permet la diversification et l'optimisation des flux. Les fondations abritées à l'Institut de France illustrent cette nouvelle géographie de la générosité, comme le montre chaque année la carte des grands prix distribués sous cette coupole. Certaines fondations agissent selon le schéma classique du nord vers le sud, telle la Fondation Mérieux, qui mène ses projets dans les pays en voie de développement pour créer de toutes pièces des écoles, d'infirmiers, des laboratoires, les rendre opérationnels, puis les remettre aux autorités locales, comme elle l'a déjà fait au Mali, à Madagascar, au Cambodge. La Fondation Louis D, pour sa part, dans son dernier Grand Prix culturel, aide à reconstituer les bibliothèques en Haïti après le tremblement de terre. On pourrait multiplier les exemples. Que l'on se souvienne seulement que le Grand Prix mondial d'El Duca a couronné dans le passé des écrivains aussi éloignés que Simon Leys, Mario Vargas Llosa et Milan Kundera. Depuis le premier jour, les grands prix scientifiques ont montré la voie. Que ce soit selon des règles statutaires ou dans les faits, les lauréats sont choisis alternativement parmi les candidats français et parmi les étrangers. Les modes de sélection associent les plus grandes académies des sciences au monde. Dans les domaines scientifiques qui sont ouverts à la compétition, les jurys recherchent la collaboration des meilleurs spécialistes étrangers, membres le plus souvent des académies des sciences de leur pays. Il faut rappeler que la Fondation Cottrel rassemble chaque année en une sorte d'université virtuelle mondiale tous les chercheurs dans le domaine de la scoliose. Les démarches, soulignons-le, reposent sur l'expertise irremplaçable qu'apportent les académiciens membres des jurys. Elles prolongent et donnent des points d'application aux travaux académiques eux-mêmes. Elles contribuent à placer les académies et l'Institut comme partenaires dynamiques au cœur du très important réseau assurant, par la voie du mécénat mondial, une part du financement de la recherche et la notoriété de ses bénéficiaires. Ce fut l'un des thèmes sur lesquels nous réunissions en 2007 une première rencontre des académies européennes. Lorsque nous disposerons d'un grand auditorium, ce seront les académies du monde entier que nous réunirons. Mais les mécénats dont bénéficie l'Institut ont des profils variés. Certains sont issus de la mondialisation, mais d'autres relèvent tout simplement de la sainteté. Je m'en voudrais de ne pas saluer ici le geste de deux mécènes hors de nos frontières, une université américaine et un grand collectionneur genevois, qui viennent de rendre, chacun, à la bibliothèque de l'Institut, deux documents précieux, autrefois volés, deux lettres originales de Descartes qui figuraient très légitimement dans leur collection. Quels enjeux la mondialisation offre-t-elle au mécénat en ce début de XXIe siècle ? Il existe à travers le monde un nombre croissant de grands mécènes généralistes qui agissent dans des domaines très étendus dont certains sont plus riches et plus puissants que bien des gouvernements. À titre d'exemple, le mécénat américain dispose de ressources équivalentes à celles du Pentagone. Jusqu'à présent, les grands mécènes ont préféré s'entourer d'un certain secret. Ils refusent tout ce qui pourrait conduire à coordonner leurs actions, et ils ont raison. Mais ils se connaissent peu et auraient sans doute intérêt à se concerter. Certes, leurs origines et leurs ressources, leur statut et leurs préoccupations peuvent différer, mais leur vocation et leur éthique les rapprochent. Ils ont une force économique et un poids social qui leur valent presque partout un accueil favorable. Ils ont à défendre partout leur indépendance, qui est leur raison d'être, vis-à-vis de tous les pouvoirs, et pas seulement des pouvoirs publics. Ils s'interrogent sur leur politique de communication et sur leurs besoins de médiatisation. Ils ont tous le souci d'une bonne gouvernance, veulent témoigner d'une irréprochable transparence et d'un bon discernement, notamment lorsqu'ils ont à exercer les jugements de valeur. Ils ont aussi une riche expérience des précautions à prendre pour éviter les risques de conflits d'intérêts et de confusion des genres, notamment entre le lucratif et le non lucratif. Une réflexion concernée entre les grands mécènes est donc souhaitable à propos de leur situation internationale. Elle l'est aussi à propos de son exercice. Dans de nombreux cas, le mécénat s'efforce de combler les lacunes des politiques publiques, de lancer des expériences, des actions pilotes, de suppléer aux carences de la société. Un regard transversal peut aider à expertiser de nouvelles pratiques, à transformer des tentatives éparses en un type efficace d'action. Par exemple, le microcrédit est sans doute l'un des leviers d'avenir du mécénat à travers le monde. Il s'en faut cependant que la pratique soit déjà stabilisée, ce qui devrait engager les mécènes à beaucoup de prudence et en particulier à ne pas le pratiquer en direct. De même, le souci de la rentabilité du don inspire de nombreuses actions de mécénat. Cela consiste à appliquer à ces actions la philosophie de l'investissement, mais en substituant à la rentabilité d'autres critères de retour humains, sociaux, environnementaux, culturels. Les notions d'indice de performance et de quantum d'action apparaissent progressivement dans le domaine du mécénat. Elles consistent à pallier la ponctualité du geste et l'annualité des ressources du mécénat pour éviter la dispersion des actions et surtout favoriser la pérennité des résultats. Sur ces divers sujets nés de la mondialisation, l'Institut de France ne saurait prétendre à dégager lui-même des solutions, ni à s'engager dans une compétition, ni à se livrer à aucun démarchage vis-à-vis des mécènes potentiels. Il offre un cadre rigoureux et efficace qui a fait ses preuves. Il se présente en allié de la générosité et de l'intérêt général. L'expertise des académiciens est une expertise ajoutée, tout comme leurs liens avec l'étranger, qui sont anciens et sans cesse développés. Peut-être cette coupole offre-t-elle à la réunion des mécènes, des lauréats et des académiciens le cercle qui convient pour engager la réflexion et la concertation sur le mécénat sans frontières. Ainsi, j'ai donc envie, mesdames et messieurs, pour conclure, de lancer cet appel pour le bien commun, mécènes de tous les pays, unissez-vous.
Merci, monsieur le chancelier, pour ces propos qui invitent à regarder l'avenir avec confiance et détermination. Avec confiance, car l'Institut compte désormais près de 1100 fondations, aux côtés desquelles nous agissons jour après jour. Avec détermination, car nous assistons à l'essor d'une génération de bienfaiteurs qui dotent de nouvelles fondations de moyens considérables. L'Institut leur est reconnaissant de reprendre le flambeau et de favoriser, par leur constance et leur générosité, l'accomplissement de la mission que j'évoquais il y a un instant. En tant que président de l'Institut de France, je suis heureux de vous présenter cette année les actions des fondations abritées par notre institution. Le mécénat en faveur des arts, des lettres et plus généralement des œuvres de l'esprit trouve à l'Institut, et nous en sommes fiers, le soutien naturel qui lui permet de porter ses fruits. En voici le témoignage. La Fondation Art Dialogue fait de l'œuvre d'art le fondement du lien social dans la ville. Elle aide ainsi de jeunes artistes à réaliser et à exposer leurs travaux dans des lieux non spécialisés où chacun est invité à inscrire ses réactions dans des cahiers d'écriture. En 2010, la Fondation a soutenu le projet du peintre Anne Vignal. La solidarité entre générations professionnelles sous-tend l'action de la Fondation Audience Génération. Elle a remis son prix d'excellence à l'atelier de Paris, Caroline Carlson, qui rendra bientôt accessible sur Internet son patrimoine chorégraphique. Citons également son prix spécial attribué au Centre d'éveil artistique d'Aunay-sous-Bois. La Fondation Empreinte a pour objet de préserver le patrimoine culturel de l'écrit et de l'image et de promouvoir son expression contemporaine. Ainsi, l'année 2010 a vu la parution du premier ouvrage de la collection Empreinte, le fac-similé du manuscrit des Illusions perdues d'Honoré de Balzac, conservé à la bibliothèque de l'Institut. Dans le domaine des arts, la Fondation Kenza accorde des bourses à des étudiants français afin de leur permettre de poursuivre leur cursus à l'étranger. Timothée Lebert, étudiant en muséologie, sera ainsi accueilli à l'Université de Heidelberg pour la suite de ses études. La Fondation Cora s'attache à la mise en valeur du patrimoine littéraire ou artistique par des aides à la publication, à la conservation et à la restauration. Elle a financé en 2010 la publication de la thèse de Philippe Maintereau « Aux origines de l'égyptologie, voyages et collections du Nantais Frédéric Caillot » et celle d'une anthologie de textes en prose d'Yves Bonnefoy traduits en langue arabe. Créée par un descendant du père de l'industrie lainière au XIXe siècle, la Fondation Théophile Legrand soutient la protection du patrimoine historique et culturel, notamment celui lié à l'industrialisation du nord de la France. Gauthier Bedeck a été récompensé pour son procédé textile auto-rafraîchissant grâce à l'effet de la transpiration. N'oublions pas les fondations Aurélie Nemours, Brault-sous-Valmy, Colette Caillat, Georges Coulon, Création contemporaine, Thierry et Annick Desmarais, Écart Pomaré, François Bell, Jean-Édouard Gobi, Henri Gall, IEHCA, Kerchner, Laforlane, Lefort Beaumont, Marianne et Roland Michel et Tissier Grandpierre pour leur engagement en faveur de la promotion des arts et des lettres ainsi que de la conservation du patrimoine. Le mécénat scientifique accompagne les avancées de la recherche. Nous nous réjouissons que notre institution suscite, année après année, le dynamisme et la générosité de tous ceux qui soutiennent la quête des chercheurs, qu'ils soient remerciés de leur confiance. Chaque année, la Fondation Alliance attribue un prix aux responsables d'une équipe médicale ou biomédicale dont l'œuvre peut conduire à accroître l'espérance de vie. Le professeur Éric Gilson a été primé pour ses travaux sur le rôle des télomères dans le développement du cancer et dans le phénomène de vieillissement. La Fondation Cotterelle promeut en particulier la recherche en pathologie rachidienne. À ce jour, 35 projets menés par 87 chercheurs ont été pris en charge pour une durée de 3 ans. En 2010, à l'occasion du symposium Philippe Zorab à Londres, de nombreux chercheurs soutenus par la Fondation sont venus partager les avancées de leurs travaux. La Fondation Dalloz encourage pour sa part des chercheurs travaillant dans le domaine de l'ophtalmologie. Elle a souhaité distinguer Charlotte Andrieux-Soler, chargée de recherche INSERM à l'Institut biomédical des Cordeliers à Paris, pour ses travaux sur l'œdème maculaire. Le thème retenu en 2010 par la Fondation Recherche cardiovasculaire était la transplantation cardiaque et le prix Daniel Hermann a couronné les travaux sur l'évaluation de nouvelles prothèses valvulaires et le traitement chirurgical de la fibrillation auriculaire du docteur Daniel Duvaux, professeur au CHU de Nantes. Interviennent également dans le domaine de la recherche scientifique et médicale les fondations Thierry et Annick Desmarais, Jean Laplanche, nouveau fondement pour la psychanalyse, et Unité Guerra, Paul Baudouin, Lambrecht, Mayano. Comme vous l'avez souligné, monsieur le chancelier, le mécénat excède aujourd'hui largement les frontières des États. Dans le domaine de l'aide humanitaire, c'est une absolue nécessité. Les fondations abritées à l'Institut l'ont bien compris, et les actions menées durant l'année 2010 en apportent, s'il en était besoin, la démonstration. La Fondation Avenir Finance s'attache à toute recherche ou toute action liée à l'eau et à l'environnement. Elle a notamment soutenu l'association Mille et Une Fontaines pour son projet Touchdown, qui doit lui permettre d'étendre son action à 28 villages cambodgiens. La Fondation Édouard Bonnefous poursuit l'œuvre de son fondateur. Son grand prix a été remis à l'association L'Enfant Bleu Enfance Maltraitée, qui permettra dans un établissement unique dédié aux enfants de mettre en place un suivi thérapeutique ainsi que des services complémentaires destinés à l'entourage protecteur. En 2010, la Fondation pour le lien social Croix-Rouge française a soutenu l'Oasis, maison de répit et de soins palliatifs pour enfants, et son projet de mise en place d'une aide médico-sociale d'urgence. La Fondation a également contribué à l'organisation du colloque « La rencontre du visage » qui s'est tenu à Paris et à celui dédié à la fragilité de l'enfant et de l'adolescent à Nancy. Le lauréat du prix 2010 de la Fondation Pierre Dumas a été attribué à Jean-Paul Mathieu, qui dirige le centre médico-éducatif Les Mésanges. Dans le cadre de sa recherche d'une alternative à la parole, il a présenté un projet multimédia offrant aux enfants privés d'élocution de nouvelles possibilités d'expression. La Fondation Équilibre œuvre en faveur des enfants et des adolescents défavorisés à travers le monde. Elle a contribué à la construction du centre de vie La Maison Bernadette au cœur des cités du nord de Marseille. Ouvert depuis le début de cette année, le centre propose des activités d'une grande diversité aux populations de ces quartiers déshérités. La Fondation Jeannelli et Jean-René Fourtout contribue aux échanges entre professionnels de l'art contemporain de différentes parties du monde. Elle appuie des actions éducatives, de formation et d'aide à l'apprentissage de la langue française, notamment au Maroc, en encourageant le développement personnel des jeunes par l'activité artistique. C'est également par l'activité artistique, mais aussi par des programmes sportifs, que la Fondation Henri Lachmann soutient l'insertion des enfants de milieux défavorisés. En 2010, elle a notamment aidé l'association SOS Village d'Enfants pour son programme de reconstruction des enfants par le sport. S'agissant de la Fondation Suez Environnement Eau pour tous, il nous faut saluer son engagement à professionnaliser la distribution de l'eau dans les villes des pays en développement. Dans la perspective du 6e Forum mondial de l'eau, la Fondation a organisé en 2010, en partenariat avec la Fondation Chirac, un colloque sur le thème « Eau pour tous » pour en finir avec l'inacceptable. Citons aussi les fondations Alba France, Daïs, Dehec, Philippe et Françoise Durst, Feuillade pour la solidarité de proximité, La Fonda Chao et Massalina. Saluons enfin la création de la Fondation de l'Espérance, dont le but est de mettre de jeunes francophones en situation d'exercer des responsabilités dans leur pays d'origine. Depuis un certain temps déjà, la prise de conscience d'une véritable crise écologique a suscité la création de fondations en faveur de la préservation de l'environnement et du développement durable qui s'imposent aujourd'hui comme un enjeu fondamental de notre société. Des fondations abritées à l'Institut ont relevé le défi. La Fondation Daniel Jouvence a pour objet de favoriser l'étude et la préservation du milieu marin. Chaque année, elle remet un prix jeune chercheur qui couronne des travaux dans le domaine de la biologie marine. En 2010, il a été décerné à Stéphanie Bondu de l'Université de Bretagne occidentale pour son travail sur l'impact des algues marines dans le domaine de la santé. La Fondation Jacques Rougerie, Génération Espace-Mer, a pour vocation de contribuer au développement de projets liés au monde marin, aux eaux douces et à l'espace. Elle soutient en particulier Sea Orbiter, véritable laboratoire flottant pour les océanographes et opérationnel en 2012, qui n'est pas sans rappeler le Nautilus de 20 000 lieues sous les mers. La Fondation Jacques et Françoise Lécouzère définit et met en œuvre des modèles de gestion économique durable de la forêt. Depuis le passage de la tempête Klaus en 2009, l'activité de la Fondation est centrée sur la remise en état du domaine forestier des Agros dans le parc naturel régional des Landes de Gascogne. Œuvrer pour un monde plus vert, tel est le but que s'est fixé la Fondation Yves Rocher. Ce sont 50 millions d'arbres qui, avec l'opération Plantons pour la planète, auront été plantés en 2014. Cette année, le Grand Prix international Terre de Femmes, qui met à l'honneur une femme engagée en faveur de la nature et du bien-être de la collectivité, est allé à Fanny Strulens pour son atelier de maraîchage biologique au profit de personnes autistes. N'oublions pas de mentionner également, pour son engagement en faveur de l'environnement, la Fondation Botiaud-Dulac. Droit essentiel dont sont encore privés aujourd'hui des millions d'enfants et pourtant indispensable à la formation des jeunes générations au service du monde de demain, l'éducation est une préoccupation capitale qu'il convient de défendre. L'Institut est heureux de s'en faire le garant. Dans ce domaine, la Fondation Blanc-Ménil a permis le transfert au Burkina Faso de la rédaction de deux magazines destinés à la jeunesse francophone. Elle soutient entre autres l'association Lalanne et Pascal qui a créé à Haïti un centre de formation pour un meilleur usage des ressources locales ou encore l'association Seuil qui propose des marches de plusieurs mois à de jeunes repris de justice. Créée par EDF, la Fondation européenne pour les énergies de demain a pour mission d'accompagner les évolutions de l'enseignement des disciplines liées à la production d'énergie. Elle a récemment pris un tournant international en soutenant à Canton la création de l'Institut franco-chinois de l'énergie nucléaire et en allouant des bourses à l'étranger. Engagée aux côtés de l'association École du Monde, la Fondation Luciole apporte son aide aux populations malgaches très isolées. En 2010, une école primaire a été construite dans le village de Tijonga. Une autre verra le jour en 2011 dans le village d'Ampampamena. La Fondation Steria lutte contre la fracture numérique en partageant son savoir-faire dans les technologies de l'information. En 2011, elle a accompagné l'association Interface Handicap dans la création du premier site Internet multi-accessible et a également soutenu l'association Espace qui offre à des personnes en situation d'exclusion l'accès informatique indispensable à leur réinsertion. La Fondation Guy Sayas soutient activement des étudiants désireux de poursuivre des études scientifiques ou industrielles. Cette année, des bourses sont allées à des jeunes recommandés par l'inspection académique du Vaucluse. Il convient également de nommer les fondations Barthélemy, Marie-Rose et Michel Bézian, Un métier vocation, Sophie Germain, Éric Vincenot. Elles aussi soutiennent l'instruction et l'enseignement supérieur. L'Institut de France est le lieu par excellence d'une pensée sereine, collective et indépendante, et nous accueillons avec joie des fondations d'un type nouveau qui révèlent une transformation de l'engagement philanthropique fortement impliqué dans le devenir de la société. Ainsi, la Fondation Croissance Responsable mène une réflexion sur l'évolution du modèle économique actuel pour alimenter le débat public sur des thématiques économiques et sociétales. Sur le sujet « La croissance, stop ou encore ?», elle a organisé en décembre 2010 à l'hôtel Del Duca son premier forum autour de personnalités issues des mondes économiques et politiques, mais aussi de l'ensemble de la société. La Fondation de recherche Caritas a vocation à financer des travaux portant sur la pauvreté, la charité et la solidarité, En 2010, la Fondation a décerné son premier prix au jeune sociologue Nicolas Duvoux pour son ouvrage « L'autonomie des assistés, sociologie des politiques d'insertion ». Elle a également organisé à l'Institut un colloque intitulé « Crise, ressources et pauvreté ». La Fondation Tocqueville contribue au rayonnement de la pensée de l'auteur de la démocratie en Amérique, particulièrement celle relative à la philanthropie. Elle a co-organisé en janvier 2011 avec la Fondation Prince Albert II de Monaco une table ronde de grands mécènes internationaux. Citons également la Fondation Habitat et Humanisme qui prépare un colloque sur le thème « Après l'État-providence, quelle solidarité nouvelle contre le mal-logement » prévu pour le mois de septembre prochain à l'Institut. Ce tour d'horizon est trop bref pour donner la mesure de notre gratitude envers celles et ceux dont la générosité irrigue la vie de l'Institut de France. Qu'ils soient assurés de la fermeté de notre engagement à leur côté et de notre détermination à poursuivre ensemble la tâche. C'est ensemble que je vous propose de procéder maintenant à la remise des grands prix. Et pour commencer, découvrons le lauréat du prix Christophe Mérieux de la Fondation Christophe et Rodolphe Mérieux. Je donne la parole à Monsieur Philippe Sansonetti de l'Académie des sciences pour présenter les travaux du docteur Hector Hugo Garcia.
Merci, Monsieur le Président. La Fondation Christophe et Rodolphe Mérieux a pour objet de contribuer dans les pays en voie de développement à la recherche scientifique appliquée à la santé publique et plus particulièrement à la lutte contre les maladies infectieuses. Elle permet chaque année d'identifier et récompenser par le très prestigieux prix Christophe Mérieux, un chercheur exceptionnel, vivant et travaillant en région d'endémie infectieuse et parasitaire, pour encourager la poursuite de ses travaux. J'ai l'honneur de remettre ce prix au nom de la Fondation Christophe et Rodolphe Mérieux, de l'Institut de France et du jury scientifique qu'il a sélectionné cette année, à un éminent médecin et chercheur péruvien, le professeur Hector Garcia. Au Pérou, et bien souvent encore dans les zones rurales pauvres de la planète où l'hygiène alimentaire est absente, une crise d'épilepsie, particulièrement chez l'enfant, est symptomatique de la neurocysticercose, la forme neurologique gravissime de la cysticercose. Cette zoonose parasitaire, largement négligée, est due à l'absorption massive d'œufs de téniasolium, issus d'eau contaminée ou de viande de porc insuffisamment cuite. Une fois ingérés, les œufs traversent la barrière intestinale et disséminent dans l'organisme, se localisant de préférence dans les muscles et dans le système nerveux central. S'ensuit la formation de lésions cérébrales inflammatoires qui s'enkystent et deviennent irréversibles. Diagnostic et traitement précoces sont donc la solution à l'échelon individuel, mais collectivement, seule une approche globale incluant la prévention de la transmission et l'élimination des parasites de leur réservoir naturel permettra d'éviter, voire d'éradiquer, la neurocysticercose. Le professeur Hector Garcia, médecin, épidémiologiste et chercheur, coordonnateur du Cysticercosis Working Group in Peru, a décidé d'éradiquer la neurocysticercose. Il est un expert incontesté de cette maladie. Sa vision, ses contributions médico-scientifiques, sa compétence et son charisme lui ont permis de mettre en place un réseau intégré internationalement reconnu, bénéficiant de soutien attestant de sa crédibilité, NIH, Fondation Bill et Melinda Gates, Wellcome Trust. Il est présent dans son laboratoire, où il développe avec son équipe des modèles expérimentaux animaux permettant de mieux comprendre la physiopathologie de la maladie et ses mécanismes immunologiques de protection, afin d'optimiser les approches thérapeutiques basées sur l'albendazole, seul ou en combinaison, et de développer de nouvelles approches vaccinales. Il est présent à l'hôpital pour développer et optimiser les méthodes de diagnostic et de grading des lésions cérébrales, en particulier par neuroimagerie. Ces données sont essentielles, car il a bien démontré la nécessité d'une approche thérapeutique individualisée, prenant en compte le nombre, la localisation et l'activité des lésions traduisant la viabilité des parasites dans le système nerveux central, incluant si nécessaire la chirurgie en cas d'hypertension intracrânienne. Ces contributions et les essais cliniques qui en découlent font la matière de conférences consensus qui ont contribué à améliorer la prise en charge des patients et ont donné lieu à des articles dans de grands journaux de la recherche clinique comme le New England Journal of Medicine ou le Lancet. Il est présent sur le terrain, enfin, où, grâce à la mise au point d'outils diagnostiques permettant le dépistage de la présence du parasite et de ses œufs dans ses réservoirs humains et porcins, il assure le suivi épidémiologique de la maladie et la mise en place des mesures d'éradication, combinant traitement de masse chez l'homme et vaccination des porcs. Pour conclure, cette approche intégrée exemplaire de la neurocysticercose sert maintenant de modèle pour d'autres continents, particulièrement en Afrique et encore en Europe, et le professeur Hector Garcia est l'animateur infatigable de ce réseau qui prend une dimension planétaire. Il ne fait pas de doute que le succès couronnera son entreprise, et il nous a semblé qu'il était temps que son travail exemplaire soit à la fois reconnu et encouragé par la récompense prestigieuse qu'est le Grand Prix Christophe Mérieux. Comme vous le verrez dans le film qui va suivre, la dotation sera totalement dédiée à la mise en place et au fonctionnement d'un centre intégré de recherche et de traitement, cœur du dispositif, à l'université Peruana Caetano Heredia à Lima.
J'invite monsieur le docteur, Ce sont maintenant deux lauréats que nous découvrons pour le Grand Prix scientifique de la Fondation Louis D. Je donne la parole à M. Jean-François Bach, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, pour présenter les travaux du Dr Geneviève Almouzni, puis du professeur Philippe Avner.
Merci, M. le Président. Les fonctions des cellules sont commandées par un ensemble de gènes dont l'expression conduit à la synthèse de nombreuses protéines. Chaque gène est caractérisé par une séquence de nucléotides au sein de la molécule d'ADN. Il s'est avéré au cours de ces dernières années que l'expression des gènes était finement régulée, augmentée ou diminuée par des modifications biochimiques qui touchaient soit l'ADN lui-même, notamment par une réaction de méthylation, soit les molécules d'histones autour desquelles s'enroule l'ADN pour former la chromatine au sein des chromosomes. Ces modifications biochimiques, qu'on appelle marques épigénétiques, jouent un rôle absolument central dans les phénomènes de développement, notamment au cours de l'embryogenèse, dans les processus de vieillissement, mais aussi dans la survenue des cancers. On discute de façon active le rôle de l'environnement dans l'induction de ces marques épigénétiques, qu'il s'agisse de l'environnement des écologistes, l'environnement physique, chimique, alimentaire, mais aussi l'environnement culturel, comportemental, également pris en compte par les généticiens. Ainsi, si on élève des souriceaux nouveau-nés pendant quelques semaines avec un régime hypernutritif, ces souris deviennent obèses, ce qui est attendu. Mais ce qui est plus étonnant, ces souris restent obèses toute leur vie, même quand on leur donne un régime normal. Et qui plus est, elles transmettent cette prédisposition à l'obésité à leurs descendants. Deux phénomènes totalement inattendus, expliqués par l'épigénétique. Le thème du Grand Prix scientifique Louis D. 2011 concerne ces différents aspects de l'épigénétique. Les deux lauréats qui ont été sélectionnés par le jury du prix Louis D, parmi un grand nombre de candidats de très haut niveau, ont réalisé des travaux remarquables, reconnus dans la communauté internationale comme pionniers dans leur domaine. Geneviève Almouzni est professeure agrégée de biochimie, ancienne élève de l'École normale supérieure. Elle est actuellement directeure de recherche au CNRS à l'Institut Curie. Elle a réalisé des travaux d'une importance tout à fait particulière, permettant de comprendre comment le patrimoine génétique, qui est identique dans toutes les cellules, est utilisé de façon sélective et distincte par chaque type cellulaire, et cela de façon reproduite, transmise de façon fidèle à la lignée cellulaire, tout en gardant la possibilité de répondre aux changements de l'environnement. Geneviève Almouzni a également réalisé des travaux très importants permettant de mieux comprendre le maintien, l'intégrité de l'information génétique et épigénétique, notamment la dynamique de la chromatine au cours du développement du cycle cellulaire et de la réparation de l'ADN. Ces travaux ont également permis de mieux comprendre l'assemblage de la chromatine dont nous parlions il y a un instant. Assemblage, formation du nucléosome, mais aussi formation de l'hétérochromatine. Enfin, Geneviève Rasmussen a démontré les liens inattendus qui existent entre l'assemblage de la chromatine et la réparation de l'ADN, en décrivant l'action d'un facteur original, le facteur CAF1, qui s'est révélé un chaperon des histones, mais également un marqueur précoce qu'on peut utiliser en diagnostic pour repérer, identifier l'existence d'une prolifération de cellules tumorales dans les cancers du sein. En bref, un ensemble de travaux tout à fait remarquables qui éclairent d'un jour nouveau les maladies du développement, mais aussi les mécanismes intimes de la cancérogénèse. Je propose de vous présenter maintenant le deuxième lauréat. Philippe Avner est d'origine britannique. Après avoir soutenu sa thèse à l'université de Warwick, il a rejoint la France à la fin des années 70. Il est actuellement directeur de recherche au CNRS à l'Institut Pasteur, où il a réalisé depuis près de 30 ans de remarquables recherches dans différents domaines de la génétique. Les recherches qui justifient la reconnaissance du prix Louis D cette année concerne ses travaux sur les mécanismes épigénétiques de l'inactivation du chromosome X. Les cellules de mammifères sont porteuses de deux chromosomes sexuels. Les cellules des mâles portent un chromosome X et un chromosome Y. Les cellules de femelles comportent deux chromosomes X. Fait inattendu, l'activité fonctionnelle simultanée de ces deux chromosomes X dans les cellules de femelles n'est pas compatible avec la vie. Un des deux chromosomes X est inactivé dès les premiers moments de la vie embryonnaire, et cela dans la grande majorité des cellules. Les travaux de Philippe Avner ont consisté à étudier les mécanismes épigénétiques de l'inactivation du chromosome X. Philippe Avner a en particulier étudié avec beaucoup de finesse un des gènes jouant un rôle essentiel dans le déclenchement de l'activation, le gène XIC. Il a localisé puis séquencé ce gène, montré qu'il existait des locus requis et d'autres non requis pour le déclenchement de l'inactivation. Peu après, Philippe Avner s'est intéressé au gène XIST, qui joue un rôle central dans l'inactivation. Cette inactivation commence, et cela est important de le dire, à la fin de la période de totipotence qui caractérise les tout premiers stades de développement embryonnaire. Philippe Avner a montré que le gène XIST avait une activité contrôlée par la fixation de facteurs de pluripotence. Un ensemble de travaux tout à fait exceptionnels qui permettent d'avoir une idée complètement nouvelle et approfondie du mécanisme de ce phénomène central de l'inactivation du chromosome X, mais des travaux qui ont également de grandes retombées dans la compréhension de maladies héréditaires fréquentes, toutes les maladies héréditaires liées au chromosome X qui sont observées chez le garçon.
Je remercie Monsieur le secrétaire perpétuel pour cette présentation et j'invite Madame Geneviève Almousny et Monsieur Philippe Avner à monter à la tribune. Voici maintenant le lauréat du Grand Prix humanitaire de la Fondation Louis D. Je donne la parole à M. Xavier Darcos, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques, pour présenter l'association Le Rocher, Oasis des cités.
Merci, M. le Président. Le ROC, cet acronyme ROC, particulièrement bien choisi, désigne le rocher Oasis des cités, association lauréate du Grand Prix humanitaire de la Fondation Louis D. Ce prix biannuel récompense ou soutient une association, une fondation, une organisation non gouvernementale, française ou étrangère, qui mènent une action caritative en France ou à l'étranger. Association française active dans 8 quartiers, dits sensibles, de nos banlieues, le ROC vient aujourd'hui s'ajouter à la liste déjà impressionnante des lauréats de ce Grand Prix humanitaire Louis D. Le Comité international de la Croix-Rouge, pour 2 projets d'approvisionnement en eau et en traitement de l'eau en Afrique centrale, la Fondation Abbé Pierre pour le logement des défavorisés, le Secours catholique pour son projet d'accueil médicalisé des autistes adultes, l'œuvre dite du bateau tremplin créée et conduite par l'Association des œuvres hospitalières de l'Ordre de Malte. En 2009, la maison relais, construite par les petits frères des pauvres dans le 20e arrondissement de Paris. Cette année, le conseil d'administration de la Fondation Louis D et le comité de sélection que j'ai l'honneur de présider ont décidé de soutenir le rocher Oasis des cités, ROC, pour un ensemble de 7 projets en cours d'élaboration ou de réalisation. L'aventure du rocher a commencé en l'an 2000 à Bondy. Un couple d'éducateurs décide de s'installer au cœur d'un quartier sensible et de se mettre au service des jeunes et de leurs familles. En une décennie, la petite association innovante née de cette initiative a connu un développement rapide et les rochers se sont multipliés. Depuis 2004, chaque année a vu s'ouvrir une antenne nouvelle. D'abord dans un quartier de Toulon, puis l'année suivante dans un autre quartier de la même ville. En 2006, c'est à Lyon que s'installe une nouvelle équipe, puis dans le quartier Saint-Louis, au nord de Marseille, puis dans le 10e arrondissement de Paris, en 2009. La dernière en date étant fondée en 2010, au Mureau, dans les Yvelines. D'autres, n'en doutons pas, seront créés au cours des prochaines années. Chaque équipe locale est formée de 4 à 7 permanents autour d'un couple responsable. Travail des éducateurs spécialisés, des assistantes sociales, des volontaires du service civique. Partout, ces équipes ont été bien accueillies par les habitants et sont très appréciées par les municipalités. Partout, elles ont su créer un lien de confiance avec les jeunes en allant à leur rencontre, là où ils sont, dans la rue ou au pied des tours. Dans chaque quartier où ces équipes agissent, des jeunes livrés à eux-mêmes, à la merci de toutes les influences, et pas des meilleurs, sont pris dans l'engrenage bien connu qui mène à l'échec scolaire, à l'exclusion et parfois à la délinquance. Devant ces problèmes, leurs familles sont désemparées. Que faire ? La grande force du rocher, et j'y suis particulièrement sensible, c'est d'avoir mis l'éducation au centre de tout. Concrètement, à Bondy, par exemple, une aide aux devoirs scolaires est offerte à 45 enfants. Des activités éducatives et artistiques sont proposées à une quinzaine d'enfants chaque mercredi. Un foyer accueille des adolescents chaque jour de la semaine jusqu'à 20 heures. Des camps de vacances et des sorties sont organisés pour des groupes de collégiens. Mais l'effort ne porte pas seulement sur les jeunes. Les animateurs du rocher ont la conviction, profondément juste, que l'action éducative ne porte ses fruits que si les parents sont impliqués. Associer les jeunes et les adultes dans des quartiers de coéducation, telle est la réponse mise en œuvre sur le terrain des quartiers sensibles où sont présents les lauréats du Grand Prix humanitaire 2011 de la Fondation Louis D. C'est de cette manière que leurs équipes sont devenues des oasis dans les cités. Quelque part dans les illusions perdues dont nous voyons tout à l'heure le manuscrit, Balzac a une phrase magnifique. Dans le désert de Paris, Lucien Leven trouva une oasis, rue des Quatre Vents. Aujourd'hui, dans les déserts urbains où les vents tournoient entre les murs de béton, des hommes et de femmes proclament qu'il faut aimer la vie pour en être acteur. Et des oasis, émerge là où l'énergie, la volonté, la foi sont assez forts pour qu'en frappant le roc, en jaillisse une eau vive et fertile.
Merci, monsieur le secrétaire perpétuel. J'invite donc monsieur Éric de Courville, président du Rocher Oasis des Cités, à monter à la tribune. Nous en revenons aux sciences pour découvrir le lauréat du prix de la Fondation Le Foulon de la Lande. Je donne la parole à M. Alain Carpentier, président de l'Académie des sciences, pour présenter les travaux du professeur Valentin Fuster.
Monsieur le Président, Monsieur le Chancelier, Mesdames, Messieurs les académiciens, Mesdames et Messieurs, en 1540, avant Jésus-Christ, la reine d'Égypte, Amose Unatempet, mourut d'une crise cardiaque à l'âge de 40 ans. L'examen de sa momie par scanner, récemment pratiqué par des chercheurs américains, permit d'en révéler la cause. Il y avait des plaques calcifiées qui infiltraient la paroi des vaisseaux nourriciers du cœur, au point d'en obstruer la lumière. Nementepet est probablement décédé d'un infarctus du cœur. L'usage du tabac n'étant pas connu à l'époque, on peut en déduire qu'elle avait d'autres facteurs de risque bien identifiés aujourd'hui. Sédentarité, hypertension, hérédité, surtout puisque les autres membres de sa famille, étudiés en même temps par la même technique, présentaient les mêmes lésions. Plus de 3500 ans plus tard, c'est-à-dire aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter le plus grand spécialiste au monde de la maladie d'Enuntempet, le professeur Valentin Fuster, auquel j'aurai l'honneur de remettre le grand prix Le Foulon de la Lande de l'Institut de France, un prix de 500 000 euros pour ses recherches futures. La fondation Le Foulon de la Lande est l'une des grandes fondations de l'Institut de France. Elle distribue chaque année environ 1 400 000 euros de subventions, principalement scientifiques et principalement dans le domaine cardiovasculaire, honorant ainsi la mémoire du fondateur des laboratoires de la Lande, dont nous saluons ici les généreux héritiers, M. et Mme Le Foulon. L'attribution du Grand Prix fait chaque année l'objet d'une sélection rigoureuse par un jury d'éminentes personnalités internationales, dont certains membres sont ici et que je salue et auxquels j'adresse ma gratitude pour leur dévouement, leur sagesse et leur sagacité. Le lauréat, le professeur Valentin Fuster, est professeur de cardiologie et dirige l'Institut de cardiologie du prestigieux Mount Sinai Hospital de New York. Il est aussi directeur général du Centre national d'investigation cardiovasculaire Carlos III à Madrid. Il a reçu déjà de nombreuses et très éminentes distinctions que je ne nommerai pas pour me concentrer sur les travaux qui ont justifié l'attribution de ce grand prix. Valentin Fuster connaît si bien la maladie d'Enuntempet qu'il lui a même donné son nom, l'athérothrombose. Ce terme composé décrit assez bien, d'une part, la maladie de fond, l'athérome, et d'autre part, la complication principale, l'obstruction brutale par des caillots sanguins. Utilisant un modèle expérimental original, Valentin Fuster a le premier décrit le rôle des plaquettes sanguines dans cette obstruction. Puis, il a découvert le moyen de la prévenir par l'aspirine chez l'homme et les antithrombines chez l'animal. Il a montré les modalités de la rupture de la plaque athéromateuse et, nouvelle considérable, la possibilité d'une certaine réversibilité de son évolution par des statines. Il a décrit les facteurs de risque de cette maladie dont la connaissance permet d'en influer le cours, voire de la prévenir chez les jeunes, à condition qu'ils veuillent bien respecter les recommandations. Il a découvert le rôle bénéfique de la prévention par la rifampicine de la prolifération de la matrice extracellulaire après mise en place de ces tuteurs de désobstruction artérielle qu'on appelle aujourd'hui des stents. Il est enfin l'un des pionniers de l'utilisation chez l'animal puis chez l'homme des méthodes modernes d'imagerie par résonance magnétique nucléaire. Fervent promoteur de la recherche translationnelle et chef d'une école prestigieuse de cardiologie, il a réuni autour de lui une équipe pluridisciplinaire de recherche. J'appelle le professeur Valentin Fuster.
Merci, Monsieur le Président. C'est bien un seul lauréat, incarné par deux scientifiques, que récompense le prix scientifique de la Fondation NRJ. Je donne la parole à Monsieur Henri Corne de l'Académie des sciences pour présenter les travaux du professeur Vincent Méninger et du docteur Séverine Boilet.
Mesdames, Messieurs, la Fondation NRJ Institut de France a été créée en 1999 par M. Jean-Paul Baudecroux, dont la générosité est à l'image de sa confiance dans la jeunesse et dans les bienfaits de la science. L'activité de la Fondation NRJ concerne la recherche biomédicale et plus particulièrement le fonctionnement du cerveau et ses pathologies. Elle a deux objectifs. Le premier est de soutenir chaque année, de façon substantielle, des jeunes équipes qui sont sélectionnées par l'Institut de France afin de les aider à initier leur projet de recherche. Le thème retenu cette année était « Régulation centrale de la prise alimentaire et ses troubles, application dans l'anorexie et l'obésité ». Le second objectif est de décerner chaque année un grand prix à des chercheurs européens d'exception. Le thème choisi pour 2011 est une terrible affection, la sclérose latérale amyotrophique. Le prix 2011 de la Fondation NRJ est attribué à deux chercheurs de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Ces personnalités attachantes et hors du commun sont respectivement le professeur Vincent Méninger, chef de service de neurologie, directeur du Centre national de référence de la sclérose latérale amyotrophique, et le docteur Séverine Boyer, chercheur à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. Le premier a notamment découvert le seul traitement actif de cette affection à ce jour. La seconde a montré dans un travail désormais classique que des cellules de soutien situées à proximité des neurones moteurs participent à la dégénérescence causale de ces derniers, d'où le concept de dégénérescence non autonome. Les travaux de ce lauréat couvrent donc les deux volets cliniques et fondamentaux d'une même affection. Ils sont exemplaires en cela de ce qu'on appelle la recherche translationnelle, laquelle semblait encore, il y a peu de temps, inconcevable dans le cas des maladies si complexes que sont celles du système nerveux. La sclérose latérale amyotrophique est appelée aussi maladie de Charcot, du nom de celui qu'on a décrit à la fin du XIXe siècle, les symptômes et les lésions, dans ses 12e et 13e leçons, et ce, à la Salpêtrière, qui, on peut le rappeler ici, a fait la gloire de la neurologie française. Porter ce diagnostic est une épreuve particulièrement cruelle pour tous, y compris pour le neurologue. Celui-ci comprend en effet d'emblée que la paralysie initiale, parfois une paralysie à peine perceptible, va se généraliser en quelques années à tous les muscles corporels et surtout aux muscles respiratoires. Les fonctions intellectuelles et sensorielles n'étant pas touchées, le malade deviendra littéralement spectateur de sa propre mort par asphyxie progressive. Cette neuropathie résulte d'une dégénérescence inexorable des neurones moteurs, qui dégénèrent des neurones qui commandent les muscles. Sa cause reste inconnue. Les formes sporadiques, je vous en dirai juste quelques mots, seraient d'origine multifactorielle, ont été invoquées une exotoxicité par excès de glutamate ou par mutation de son récepteur, une dérégulation de la mort programmée ou apoptose, ou encore une accélération du stress oxydatif. Les formes héréditaires sont associées à une mutation du gène SOD1 qui code pour une enzyme antioxydante. Une telle gravité et tant d'inconnus expliquent l'importance des travaux de Séverine Boyer et Vincent Méninger. C'est ainsi que l'utilisation judicieuse de souris chimériques pour des voies de signalisation spécifiques a révélé que la protéine SOD1 mutée dans les motoneurones, lorsqu'elle est dans les motoneurones, a un rôle initiateur de la maladie. Par contre, quand la protéine est exprimée dans les cellules autres que les neurones moteurs, c'est-à-dire dans leur environnement glial, astrocytes et microglies, elle favorise sa progression. De plus, des mutations nouvelles ont été identifiées, dont certaines, c'est un point encore plus, au moins aussi intéressant, seraient par ailleurs en cause dans certaines démences frontopariétales. Pour sa part, le groupe clinique s'est engagé dans la conception méthodologique d'essais thérapeutiques rigoureux qui ont montré que le riluzol est le seul composé qui ralentit l'évolution de la maladie. D'autres produits sont en cours d'analyse sur des cohortes de patients toujours plus étendues. Dans la logique des résultats obtenus, les équipes de Vincent Méninger et Séverine Bouillet ont un programme ambitieux et prometteur qui consiste en particulier à analyser les facteurs qui sous-tendent les capacités migratoires des cellules à microglie, lesquelles peuvent, en s'agglutinant aux motoneurones, précipiter leur dégénérescence. Il conviendra d'identifier les substances d'attraction, les chimiokines, pour agir enfin sur elles par traitement ciblé. L'étude sera conduite sur des souris modèles à partir de greffes de moelle osseuse n'exprimant pas la SOD1 mutée. Des nouveaux biomarqueurs seront recherchés pour mieux cerner les mécanismes mis en jeu dans cette affection, en assurer un diagnostic précoce et suivre l'efficacité des traitements. Nous ne pouvons qu'accompagner de tous nos voeux de succès ces chercheurs et leurs équipes qui nous ont déjà tant apporté.
Merci, mon cher confrère. Nous allons maintenant découvrir le lauréat du prix scientifique de la Fondation Simone et Sino del Duca. Je donne la parole à Madame Catherine Bréchignac, secrétaire perpétuelle de l'Académie des sciences, pour présenter les travaux du professeur Romain Tessier.
Spécialiste en simulation numérique, chercheur de renommée mondiale, professeur à l'Université de Zurich, Romain Tessier dirige une équipe de recherche au service d'astrophysique du CEA. Son équipe, considérée aujourd'hui par nos collègues français et étrangers comme une réussite de tout premier plan, est à la pointe de la compétition internationale dans le développement d'outils numériques. Le code Ramsès, que Romain Tessier a développé et publié en 2002, est aujourd'hui utilisé dans le monde entier pour interpréter les données du milieu interstellaire à échelle intermédiaire. L'acronyme Ramsès signifie « raffinement adaptatif de maillage » pour les trois premières lettres, RAM, et pour les trois dernières, SES, sans effort surhumain. Clin d'œil de Romain Tessier, mais présentant certaines difficultés cependant pour les utilisateurs. Une application massivement parallèle de ce code permet de traiter, sur une grille adaptative, une très grande gamme d'échelles spatiales qui, en d'autres temps, demanderait des tailles de mémoire gigantesques, absolument inaccessibles de nos jours. Ce code a été utilisé avec succès pour modéliser la formation des galaxies dans un cadre cosmologique, la formation de nuages moléculaires au sein d'un disque, comme le Grand Nuage de Magellan, par exemple. Dans le domaine de la simulation extrême, Romain Tessier et son équipe ont réalisé une simulation numérique qui a détenu, jusque très récemment, le record mondial en nombre de particules, soit de 70 milliards. La simulation réalisée en 2007 au Centre de calcul de Barcelone Mare Nostrum, qui a fortement modifié notre vision de la formation des galaxies, a montré que l'accrétion de gaz diffus à l'origine des galaxies spirales s'effectue par le biais de courants froids de gaz primordial. Le projet proposé ambitionne de simuler la formation des étoiles en partant de l'échelle du plus petit fragment possible, comme par exemple la distance entre le Soleil et Saturne, pour aller jusqu'à l'environnement de la galaxie, ce qui signifie une physique multi-échelle s'étendant sur 9 ordres de grandeur. Ce projet représentera une avancée majeure dans notre compréhension de la formation des étoiles dans l'environnement galactique. Mais au-delà du défi en calcul intensif que représente la couverture d'une telle gamme d'échelles au sein d'une même simulation, le développement d'outils algorithmiques devrait permettre de décrire les mécanismes physico-chimiques nécessaires à ce couplage d'échelles. Considéré comme l'un des 4 premiers chercheurs mondiaux dans le domaine de la simulation cosmologique et sans doute l'un des plus originaux, Romain Tessier a développé avec son équipe de jeunes chercheurs brillants, très compétents et complémentaires, ce projet ambitieux qui lui permettra, grâce à l'attribution du Grand Prix de la Fondation Simone et Sinodel Duca, de se situer, une fois encore, j'en suis sûre, en tête au niveau mondial.
Merci, Madame la Secrétaire perpétuelle. Découvrons enfin le lauréat du prix d'archéologie de la Fondation Simone et Sinodel Duca. Je donne à cette fin la parole à Monsieur Michel Zinc, président de l'Académie des inscriptions et belles-lettres.
Merci, Monsieur le Président. Pour la première fois cette année, le Grand Prix d'archéologie de la Fondation Simone et Sinodel Duca, décerné par l'Académie des inscriptions et belles-lettres, est remis sous la coupole dans le cadre de cette séance solennelle de remise des grands prix des fondations de l'Institut de France. On sait le souci qu'avait Simone Del Duca d'encourager d'une part la recherche scientifique, d'autre part les artistes et les écrivains dont l'œuvre propose, si on peut dire, un message au monde d'aujourd'hui, autrement dit, dont l'œuvre est humaniste au sens qu'a pris ce mot ces dernières années. Pourquoi donc a-t-elle souhaité que la générosité de la fondation que l'Institut de France abrite depuis 2005 s'étende à l'archéologie ? Certes, les liens de solide amitié qui l'unissaient à notre secrétaire perpétuel, Jean Leclan, ont contribué à éveiller son intérêt pour l'égyptologie d'abord et plus largement pour les grandes questions liées à la conservation, à la valorisation et à l'enrichissement du patrimoine culturel de l'humanité. Nul mieux que Jean Leclan ne pouvait lui montrer comment la discipline austère qu'est l'archéologie, par un effort collectif et en combinant de façon ingénieuse des sciences de plus en plus nombreuses et des méthodes de plus en plus diverses, restitue une part du message universel dont chaque civilisation disparue est porteuse. Mais Simone Del Duca, formée comme on l'était en son temps par les humanités, avait d'elle-même le vif sentiment que nous ne sommes rien sans notre mémoire. Correspondant de l'Académie des Beaux-Arts, elle savait que l'inspiration des artistes d'aujourd'hui se nourrit nolens volens du souvenir des arts exhumés. Art et archéologie, l'association est moins désuète qu'il y paraît. Cette année, la Fondation Del Duca a décidé de décerner son Grand Prix d'archéologie au Centre de l'École française d'Extrême-Orient, EFEO, à Siem Reap, pour les travaux de recherche, de restauration et de mise en valeur du site d'Angkor qu'il accomplit en partenariat avec les autorités cambodgiennes dans le cadre d'un vaste programme international coordonné par l'UNESCO et bénéficiant d'un financement important du ministère des Affaires étrangères. Héritier de la conservation d'Angkor, créée en 1908 à la suite de la rétrocession par le royaume de Siam de ses provinces occidentales au Cambodge, l'actuel centre de Siam Riap, après une longue période de fermeture consécutive à la prise du pouvoir par les Khmers rouges, a retrouvé toute son importance à partir de 1992, date de l'inscription du site d'Angkor sur la liste du patrimoine mondial. Il a relancé les chantiers de restauration abandonnés en 1975 des terrasses royales d'Angkor Thom, dont celle du roi lépreux et des éléphants. Il conduit également, depuis 1995, la restauration exemplaire qui vient tout juste de s'achever du temple montagne du Baphuan, monument sivaïte construit au XIe siècle et remanié au XVIe siècle, une opération que notre Académie a constamment soutenue, fidèle à une tradition qui en fait depuis plus d'un siècle la protectrice par excellence des études khmères. Bénéficiant du ferme et fidèle appui de Sa Majesté le roi Norodom Sihamoni, associé étranger de l'Académie des inscriptions depuis 2008, qui a fait de la sauvegarde du site d'Angkor l'une des priorités de son règne dans le domaine de la culture, le centre de Siem Reap a su tisser d'un lien fécond avec les autorités locales en charge de la conservation du site archéologique d'Angkor, mais également avec plusieurs universités prestigieuses. Et il travaille aussi en étroite collaboration avec l'atelier de restauration du Musée national de Phnom Penh, fondé en 1996. Les missions qu'il poursuit sont regroupées selon deux axes majeurs. D'une part, l'étude de l'espace et de son aménagement à l'échelle du monument lui-même, de la ville, du territoire, de la région. D'autre part, l'histoire du site à partir de son origine, aujourd'hui encore partiellement obscure, quel était le projet exact du grand roi Yawavarman VII quand, à la fin du XIIe siècle de notre ère, il a entrepris les gigantesques travaux d'aménagement d'Angkor Thom. Dans le cadre d'une vaste entreprise de recherche cités anciennes et structuration de l'espace en Asie du Sud-Est, les investigations menées par le centre de Siem Reap se fixe donc pour objectif d'appréhender de façon globale l'histoire du site. Poursuite de l'anastylose du Baphuan par Pascal Royer, directeur des études à l'EFEO, à l'École française d'Extrême-Orient, étude par Dominique Soutif, archéologue, épigraphiste et responsable actuel du centre des Asramas, fondations religieuses de la fin du IXe siècle, qui sont à la fois des gîtes d'étape, des lieux de retraite et des lieux d'enseignement, étude d'un premier modèle de cité à Kyum, ainsi que d'infrastructures hydrauliques très originales. Dans le secteur de l'histoire urbaine, prospection de sols de type non destructif et global, appliquée de manière systématique par Jacques Gaucher, maître de conférence à l'EFEO, responsable du programme Angkor Thom, appliquée à la totalité du site, en vue d'en révéler le développement géométrique impressionnant au XIIe et XIIIe siècle. Au niveau territorial, travaux d'analyse spatiale avec une technologie de topographie laser aéroportée sous la direction de Christophe Portier, responsable de la mission archéologique franco-khmer sur Angkor, professeur invité à l'Université de Sydney, maître de conférence à l'EFEO, pour lever le voile sur la constitution et le fonctionnement des aménagements structurant à grande échelle la région d'Angkor du IXe au XIIIe siècle de notre ère. Enfin, conservation et documentation de la statuaire religieuse par Bernard Porte, responsable de l'atelier de restauration de l'EFEO au Musée national du Cambodge à Phnom Penh, avec un inventaire portant sur 8000 objets. Et tous ces résultats seront rendus publics à l'occasion d'un colloque qui se tiendra sur le site en décembre 2012.
Avant de lever la séance, je souhaite, au nom de l'Institut de France et des membres des cinq académies qui le composent, Je souhaite adresser encore nos sincères félicitations aux lauréats pour les travaux exceptionnels qu'ils réalisent dans tous les domaines des sciences, des lettres, des arts, de l'enseignement et de l'action humanitaire. J'aimerais aussi exprimer à nouveau notre gratitude à tous nos mécènes qui œuvrent à la juste reconnaissance de tant de talents. La séance est levée.
Vous pouvez lire l'intégralité des discours présentant les lauréats sur le site de l'Institut de France, rubrique actualité, www.institut-de-france.fr. Canal Academy vous propose également l'interview du chancelier de l'Institut de France, Gabriel De Breuil, interview dans laquelle il précise l'évolution du mécénat dans le cadre de la mondialisation. En tapant le mot-clé « Grand Prix », vous trouverez cette émission. Et toutes les cérémonies et séances sont chaque année, depuis 2005, intégralement rediffusées par Canal Academy. Elles restent en libre écoute et libre téléchargement en permanence. Merci de votre écoute.